Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission, Isabelle, avec vous pour les deux prochaines heures. On a tout un programme pour vous aujourd'hui, comme d'habitude. En deuxième heure d'émission, on va revenir sur le difficile accès aux soins, en particulier dans les CHSLD. On en a beaucoup parlé hier, mais se rajoute à ça l'espèce de bizarre bibitte qu'est un CLSC. On sait pas trop ce que ça fait. Et ce que ça fait, ce que ça devrait faire, ça le fait de moins en moins. Si on se fie au témoignage d'une invitée que je vais vous présenter tout à l'heure, une fille que je connais bien, c'est une cavalière extrêmement talentueuse qui, en 2012, Sophie Laflamme, a eu un accident de cheval. Elle a fait une chute qui l'a rendue tétraplégique. J'ai eu l'occasion, peut-être vous l'avez vu à Canal Vie, de faire un documentaire sur Sophie, qui aujourd'hui m'a confié qu'elle était complètement épuisée d'avoir à se battre pour obtenir des services à domicile. On comprend, c'est une tétraplégique. Sophie ne bouge à peu près que sa tête, mais elle a toute sa tête. Elle le dit elle-même. Mais elle a besoin de soins primaires. On imagine bien qu'il faut la changer, il faut la laver, il faut la nourrir. Elle a sa mère qui s'occupe d'elle. Sa mère, qui c'est incroyable, cette femme, vous n'avez pas idée de tout ce que sa mère fait, sans compter le fait que le père de Sophie se meurt en ce moment dans une unité de soins palliatifs. C'est une histoire d'horreur. Et là, on fait des pressions sur cette femme, sur sa mère. Et on lui dit, ben là, on veut plus vous enlever vos jeans. Là. Trop compliqué d'enlever vos jeans. Il faudrait que vous soyez en pyjama chez vous toute la journée, là, parce que nous autres, nos préposés veulent plus faire ça. Puis, vous savez, puis il faudrait qu'il y ait des couvre-chaussures à l'entrée quand on rentre, parce que nous autres, là, on n'enlève pas nos chaussures. Là. Voyez-vous ce genre de... Qu'est-ce que vous faites à faire suer le monde? Personne veut sa vie, là, je vous le jure. Là. C'est difficile de ce qu'elle vit. Qu'un CLSC n'est pas d'humanité... Comme ça, je me dis où ça s'en va au Québec. On va parler de ça tout à l'heure. Voyez-vous que ça prend pas... Je pompais là-dessus. Puis je sais que vous avez beaucoup d'expérience vous-même là-dessus. Vous allez tous vouloir me raconter un peu de vos anecdotes malheureuses et de vos rapports avec les CHSLD ou CLSC. On aura également Élise Desauniers, qui est directrice de la SPCA de Montréal, qui va nous dire pourquoi peut-être avoir des coqs et des poules en ville. Peut-être pas la première chose qu'on devrait faire dans la vie. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais revenir sur un sujet qui fait beaucoup, beaucoup jaser depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire l'espèce de double standard qu'il y a entre les femmes et les hommes. Et puis, il y a un exemple en politique qui m'est apparu assez évident. Puis, j'ai eu des conversations là-dessus avec toutes sortes de gens. Des gens en politique, des gens d'autres milieux au Québec. Et c'est bien sûr le cas de Martine Ouellette. Je dis le cas de Martine Ouellette comme si c'était un cas. Je veux pas en faire un cas plus qu'il faut. Certains disent qu'effectivement, c'est un cas. Il y en a même qui disent « cette femme n'est pas sympathique ». Bon, c'est assez... C'est cocasse de voir quand même Julie Boulay faire des commentaires comme ça. Julie Boulay ou autre, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Encore ce matin dans le journal, on apprend qu'il y en a certains qui ne veulent pas du tout travailler avec Mme Ouellette. Bon, j'ai eu des conversations sous le couvert de, je dirais pas avec qui, mais des gens qui m'ont dit, si c'était Martin et non Martine, on n'aurait pas ce traitement-là. On n'aurait pas la même attitude. Mais parce que c'est une femme, on la traite comme ça. On se permet de la traiter comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intéressant de poser la question parce que je me demande effectivement si c'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une espèce de traitement ici, double standard. Surtout que quand on regarde un peu ce qu'écrivent certains dans certains journaux, j'ai beaucoup réagi. Moi, je sais pas si vous avez lu en fin de semaine. Il y a Jonathan Trudeau dans le Journal de Montréal qui écrivait « Pis fuck les garçons » en disant « L'école n'est pas plus faite pour les garçons. » Et là, tout le monde en a que pour les filles. Et du coup, fuck les garçons. Ça, voyez-vous, ça, c'est l'autre standard, l'autre bout de la discussion. Alors, on va parler de ça avec mes invités. Lise Ravary, merci d'être là. Jean-Pierre Charbonneau, merci d'être là, Jean-Pierre.
Bonjour.
Vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'il y a effectivement un double standard, Lise?
Ben, je pense que le cas de Martine Ouellette est un cas, voilà, est un peu particulier parce que s'il y avait un homme qui se retrouvait dans la même position où 7 de tes 10 députés démissionnent et que tu t'entêtes, je suis pas certaine que ça n'aurait pas fait le même genre, créé le même genre de dynamique un peu négative dans les médias. Ça, c'est bon. Maintenant, le style, ça peut-être, son style un peu plus direct.
Mais est-ce qu'on a déjà dit d'un gars, il est vraiment pas sympathique? Alors qu'il
y en a,
là.
Oui, je pense que des gens des gars de qui on dit qu'il est pas sympathique.
Publiquement? Ouais. T'as un nom en tant que ton
Publiquement.
Parce que c'est de publiquement là dont on parle.
Ouais, c'est ça. Je pense présentement à Pierre Moreau. Il y a quelque chose depuis qu'il est revenu en politique, après, il avait pas quitté, mais après son congé de maladie, c'est plus tout à fait le même homme. Je le trouve plus fermé, plus froid, plus en retrait. C'est un gars que tout le monde dit d'ailleurs, il n'est plus dans la course pour la chefferie le jour où il y en aura une. Et ça s'est passé vite. Hein? Mm-hmm. Puis c'est pas une question de décision, c'est une question de personnalité. C'est vrai que les femmes, on les juge, on va mettre beaucoup de temps et d'efforts à juger leur apparence. Puis peut-être que les garçons, on en met un peu moins. Et qu'on est plus dur, on le sait. Quand une fille a un caractère fort, c'est une bitch. Quand elle crie, c'est une hystérique. Moi, des patrons masculins qui criaient dans des bureaux, qui lançaient le téléphone sur le mur, j'en ai connu, j'en ai même eu. J'ai jamais entendu personne dire qu'ils étaient
des violents hystériques.
Des violents hystériques. Non, jamais. Mais.
C'est juste des décideurs fâchés.
C'était des gars qui avaient du caractère. Puis qu'est-ce que tu veux quand t'as bien de la pression comme grand cadre, à un moment donné, tu perds les pédales. Moi, j'ai essayé de perdre les pédales une couple de fois. Je t'ai dit que je me suis retrouvée assez vite aux ressources humaines. Merci.
Ah ouais. Jean-Pierre Charbonneau.
Ben, je suis assez d'accord avec lui sur le cas de Martine Ouellet. Moi, je suis sûr que ça aurait été un gars, ça aurait été le même traitement. Et j'en ai connu pendant 25 ans en politique, plus les années, si j'additionne les années où je la suis, la politique, où je l'observe, où je la commente. Je pourrais aligner ben des noms de gars qui, finalement, l'ont pas eu facile. Je repense actuellement à Jean-François Lisée qui l'a pas facile.
En ligne Zandon, c'est ça que j'allais te demander.
Non, mais Jean-François Lisée, actuellement. Et là, la question que moi, je pose, mais je veux dire, je pense que c'est pas ça l'objectif. Est-ce que c'est pas parce que finalement, actuellement, les indépendantistes ont pas la cote, puis c'est bien facile de taper sur ou bien la chef du Bloc québécois ou le chef du PQ? Bon, ceci étant, il y a des situations où il y a des doubles standards. Mais moi, des hystériques, là, gars ou filles, tu sais, j'aimais pas ça. J'ai jamais accepté ça. Des petits boss ou des gens qui font des power trips, que ce soit gars ou filles, j'en ai vu. Et j'ai vu en politique des femmes guerrières qui étaient capables de mettre ben du monde à leur place. J'ai vu à la période de questions à l'Assemblée nationale des femmes qui étaient capables de répondre du tac au tac avec beaucoup de fermeté. J'ai vu des gars mal à l'aise, j'ai vu des femmes mal à l'aise. C'est-à-dire que on dit, parce que ça c'est un peu, je sais pas si c'est un lieu commun, parce que j'ai pas eu vraiment de en tout cas à ma connaissance d'études, pour montrer que effectivement les femmes aiment moins le climat ou le contexte de combat, par exemple.
La confrontation
parlementaire. Bon, ben, moi, je suis membre du conseil d'administration, groupe Femmes, Politique et Démocratie. On milite pour la parité homme-femme en politique. Et c'est clair que bien des gens disent, y compris les chefs actuels, que c'est pas facile de recruter des femmes en politique, notamment à cause de cette raison-là.
Ouais.
Néanmoins, quand elles arrivent en politique, mm-hmm. Ben, j'en ai vu qui étaient aussi combatives, aussi guerrières, aussi dures et impitoyables que des gars. Je sais pas si c'est politiquement correct de dire, bon, ben, tu sais, j'ai vu des Amazones, puis j'ai vu gars ou filles qui, dans l'univers du combat politique, était à l'aise. J'en ai vu d'autres qui étaient mal à l'aise. J'ai vu des hommes qui aimaient pas particulièrement ça. Tu sais, je connais un député actuellement, Sylvain Pagé, qui est un député du PQ depuis plusieurs années. C'est lui qui a commencé la tradition qui est maintenant une pratique de ne pas applaudir à l'Assemblée nationale. Pour
pas exactement guerrier, Sylvain.
Non, c'est ça. Mais tu sais, donc, voilà un gars qui, justement, avait pas une attitude guerrière et qui aimait pas cette espèce de système ou de climat de foire d'emploi où on a l'impression qu'on est dans une salle de spectacle ou à la boxe, puis qu'on applaudit nos combattants de notre côté. Alors, finalement, aujourd'hui, on n'applaudit plus à l'Assemblée nationale. Ceux qui n'aiment pas tellement ça, en particulier les journalistes de tribune parlementaire, trouvent que le show est moins
bon. Ils peuvent toujours prendre l'avion puis aller dans le sud.
C'est ça.
Bon, là, on applaudit largement quand on a
néanmoins, les doubles standards, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est parce que, même si c'est long, mais il y a de plus en plus de femmes, pas juste en politique, mais dans bien des milieux de pouvoir qui ont été réservés pendant des siècles à des hommes. Et tranquillement, est-ce que c'est les femmes qui deviennent comme des hommes ou si... Est-ce que la masse critique va faire en sorte que, tout à coup, on va créer une nouvelle dynamique? quand il y aura une majorité de femmes ou un nombre au moins égal de femmes, est-ce que là, on va sentir une différence?
Ça me fait rire parce que quand on a fêté le 50e anniversaire du droit de vote des femmes, c'est 20 ans de ça, ouais. J'avais été interviewée par Lise Payette parce que j'étais une jeune journaliste avec des opinions tranchées. Et elle m'avait dit devant tout le monde qu'on était devenus, les femmes de ma génération, comme les hommes, et que c'était pas correct. Puis elle m'avait dit, écoute, là, c'est une émission de radio, là, d'un océan à l'autre, là, d'une mer à l'autre. Là. Uh-huh. Elle me dit, ce mari que vous deviez aimer, vous l'avez quitté pour votre emploi. Mais là, c'est Lise Payette qui me dit ça.
Oui, bon, l'histoire a prouvé qu'elle n'a pas toujours été...
Non, ouais, c'est ça, ouais. Mais pour te montrer à quel point... C'est complexe commencer à rentrer dans le...
Ouais, ouais.
Et moi, je pense qu'il y en a de moins en moins, mais par contre, ce qui m'énerve...
Que c'est que moins en moins de double standard,
ouais, c'est-à-dire? Que quand on attaque une femme, la première affaire qu'on attaque, c'est son apparence.
Tellement.
Et ça, là, je dis, t'es trop maigre, t'es trop grosse, t'es trop grande, t'es trop petite.
C'est épouvantable.
La couleur des cheveux plaît pas. Puis on le sait, quand on fait de la télé un peu... je recevais, moi, des courriels après. Vous étiez mal maquillée, vous étiez ceci, vous étiez cela. Ce que j'avais dit, ça n'avait aucune importance. Et ça ne venait pas que d'hommes, ces commentaires-là. Là. Wow! Les commentaires viennent de femmes aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'on est capable d'être impitoyables les unes avec les autres à ce niveau-là. Et comment on a ri des pantailleurs de Hillary Clinton. Puis, évidemment, pour moi, la quintessence, c'est Pauline Marois, qui ne pouvait rien faire de correct d'un point de vue de son apparence.
Marois, c'est pareil. On parle beaucoup du fait qu'il y a peu de femmes en politique. Mmh. Bon, il y a Martine Ouellette, mais il y a Pauline Marois. Il y en a d'autres aussi. Dans le cas de Pauline Marois, elle a fini. À un moment donné, moi, je lui avais dit, dites-le qu'on vous traite comme ça. Dites-le comment ça vous dérange.
Mmh. Mmh.
Parce qu'elle disait, bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. Je suis obligée de répondre au code... qui me sont dictées par le public. Puis là, c'était tout le monde. Il y a les médias qui s'en mêlaient, le public s'en mêlait, mais
foulard,
tout le monde allait. Elle dit, je suis jamais habillée de la bonne façon. Peu importe ce que je mette, je suis jamais correcte.
Et depuis qu'elle n'est plus en politique, elle n'a jamais été aussi jolie, aussi...
Ben, elle-même, peut-être.
Elle
plus,
est elle-même. Il n'y a pas ce côté de béton précontraint dans lequel...
Mais peut-être que, justement, elle est tombée dans le piège. C'est une hypothèse. Mais peut-être qu'elle est tombée elle-même dans le piège si elle avait fait ce qu'elle fait maintenant et puis qu'elle avait, d'une certaine façon, mis de côté ces commentaires-là puis dit, écoutez, c'est ça, puis je suis de même. Puis ça vient de s'éteindre.
Comme Monique Jérôme Forgette, par exemple.
Oui. En v'là une, par exemple. Non, mais tu sais, en v'là une guerrière, là. Tu sais, Monique Jérôme Forgette donnait pas sa place.
Madame la sacoche, là, c'est comme. Il n'y a rien qui la dérangeait beaucoup. C'est drôle parce que là, j'ai Rock qui m'écrit. Il dit c'est drôle, tout le monde blase Gaëtan Barrette, puis ça a l'air que c'est correct. Lui, il croit pas là, qu'il y a un double standard pour les femmes. Il dit quand tu vas en politique, ça fait partie de la game pour tous. Mais moi, je veux élargir, pas juste à la politique. Là on parle de l'exemple politique, mais je veux, dans le social, dans la société québécoise, pensez-vous un double standard. Et j'en reviens au traitement qu'on fait en ce moment du décrochage des garçons, au fait qu'on dise il y a deux sexes de mesure, on s'apitoie tellement sur le sort des petites filles à l'école qu'on en a oublié nos garçons. Moi, je trouve ça raide de dire ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, l'école a été faite pour les gars. La preuve, c'est que ça fait pas si longtemps que les filles sont admises à l'école. Puis elle me dit, ben voyons, arrive en ville, c'est au moins depuis 1950. Mais ça fait pas longtemps, ça.
Puis c'est pas pour être dans toutes les facultés, je veux dire, en génie informatique, qui est comme le médecin de demain, si on peut dire, en termes d'importance sociale.
C'est encore très
gars. Des femmes, il y en a très, très peu, et c'est un milieu qui est extrêmement macho, donc tout n'est pas gagné partout. Moi, je pense que c'est vrai. Je sens qu'il y a eu une féminisation de la société québécoise depuis peut-être les années 70. Puis c'est pas juste ici. Je pense que c'est une conséquence du féminisme, de prise de conscience qu'il y avait un retard qu'il fallait absolument combler rapidement. Puis je pense qu'on a oublié à un moment donné que, et là je vais dire une horreur...
Vas-y, au moins tu nous préviens.
Je vais dire une horreur que je vais être une anti-féministe enragée en disant ce que je vais dire. un gars puis une fille, c'est pas pareil. Je pense qu'on a oublié ça en cours de route, que les garçons avaient des besoins, des façons d'être. C'est vrai qu'un petit gars, ça grouille plus, puis ça court plus, puis ça se lance des balles de neige. C'est rendu dans les cours d'école qui n'ont pas le droit de se lancer des balles de neige, ils n'ont même plus le droit de construire des forts.
C'est sûr qu'il y a une...
Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, on peut-tu qu'un gars, c'est un gars... C'est correct quand c'est un show à la télé, là?
Mais là, je trouve que tu viens de renforcer, Lise.
Oui.
Moi, j'ai des filles, OK? Mes filles, elles sont pas assises dans le coin qu'un livre. Des bonnes petites filles en porcelaine, là, quand elles étaient petites. Ça courait de tous les bords.
Oui, hein? Mais...
Comme des gars. Puis ça voulait jouer dans le parc, puis montait dans l'affaire d'araignée, puis ça voulait se pendre la tête en bas, puis... Tu comprends? Ça veut... C'est faux de dire les gars bougent, les petites filles sont tranquilles. Parce qu'après ça, on s'attend à ce que les filles, quand elles grandissent dans le milieu de travail... soit fine. Et d'où le... Mais une fille qui sort un peu de son soit fine devient une hystérique finie, c'est parce qu'il y en a qui a réagi. Mais
Isabelle, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. C'est peut-être au niveau scolaire le fait que on devrait avoir un équilibre un peu dans la présence masculine, par exemple au niveau primaire.
Mais allez-y, les gars! Pourquoi qu'il y a que des filles à l'école qui enseignent? Parce qu'il n'y a pas un gars qui veut faire moins de 40 000 piastres par année avec 25 élèves dont les deux tiers ont des problèmes.
Moi, je pense pas nécessairement. Je pense que les gars et les filles trouvent aujourd'hui que enseigner, c'est pas facile. D'ailleurs, gars et filles, il y en a un certain nombre qui débarque assez rapidement,
raison,
malheureusement, dans la profession. Mais le résultat final, c'est que si tu as un pourcentage énorme de femmes par rapport à d'hommes qui enseignent à nos enfants au niveau primaire...
Je suis d'accord.
Ça, c'est un double standard à l'envers.
OK, mais on fait quoi, Jean-Pierre? Moi, j'aime ça quand on règle des affaires. Ça, c'est bon. Okay. Là, on met le doigt sur quelque chose. Pourquoi tous les profs enseignent au cégep ou à l'université et non pas à la petite enfance? Pourquoi?
Oui, mais ça, c'est pareil. Pourquoi les étudiants en médecine s'en vont comme pour être médecin spécialiste plutôt que médecin généraliste?
Tu réponds à la question.
Oui, mais...
C'est parce que c'est plus payant d'aller enseigner à l'université que de s'occuper de petits-enfants dans des CPE ou en première, deuxième, troisième année.
Non, je pense que c'est plus
compliqué. Comme c'est plus payant d'être spécialiste que d'être médecin de famille.
Je pense que c'est plus compliqué que ça. J'ai un exemple, en fin de semaine,
ça ressemble pas mal à
ça. J'ai écrit sur...
Il faut aller à la pause, Lise.
Après...
Mais regarde ça, regarde ton opinion.
Vous parlez de l'Ontario.
Tellement. Et on va revenir avec les commentaires de nos auditeurs parce que, voyez-vous, là, on est dans le vif du sujet. Le double standard, c'est ça aussi. Pourquoi dans certains secteurs, on ne rencontre que de la présence féminine, puis après, on pointe du doigt, on dit, ben oui, il y a juste des femmes, là. C'est épouvantable, il y a que des femmes, fuck les garçons. C'est ça qui est véhiculé beaucoup en ce moment. Moi, je trouve que c'est malsain de mettre les choses comme ça, dans deux colonnes. Un colon, une colonne. Tu sais? Bon, c'est une blague, ça a été facile. Non, mais c'est vrai quand même. On fait deux colonnes en disant, voilà, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Moi, je trouve toujours que c'est désagréable.
Allez, on va-tu à la pause ou bien tu nous provoques pas mal?
T'as tellement raison de me ramener à l'ordre, Jean-Pierre Charbonneau. 514-79... Voyez-vous, je suis pas hystérique pantoute. 514-790... Je prends bien les commentaires. 790-9850. Hey, non, bon, on peut s'amuser un peu, hein, j'espère. Sans frais de partout, le 1-866-790-9850. Je vous demande justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un double standard au Québec? À tout de suite, tout le monde. On parle du double standard et on se demande si effectivement, bon, on entend toutes sortes de choses dans la société québécoise en ce moment, que ça soit de la bouche de certains chroniqueurs, moi, qui me font beaucoup réagir et qui disent qu'on a complètement jeté les garçons avec l'eau du bain. J'en cite un, par exemple, qui dit « Se fout-on royalement du sort des garçons au Québec? » J'ai bien peur que oui. Le titre était « Puis fuck les garçons ». C'était sous la plume de Jonathan Trudeau au Journal de Montréal. Fuck les garçons, sincèrement, j'ai pas l'impression qu'on se fout des garçons au Québec. Je trouve ça un peu fort. On dit un petit peu plus loin, par exemple, nous savons que dès la maternelle, je cite toujours Jonathan, les garçons affichent un taux de vulnérabilité exponentiellement supérieur aux petites filles. Langage, troubles cognitifs, violence, connaissance générale et autres. Au moment même d'entreprendre leur cheminement scolaire, ces enfants sont carrément désavantagés et que fait-on? Rien. Je trouve que c'est un peu exagéré. J'ai des auditeurs avec nous. Lise, bonjour. Ah, c'est Lise Bourgault, ancienne députée, me dit-on. Bonjour, Lise Bourgault.
Oui, bonjour, Isabelle. Bravo pour ton émission. Ça m'interpelle énormément, votre discussion ce matin.
Ben oui, parce qu'on a entamé le sujet en parlant de Martine Ouellette et de son cas, du fait qu'on la trouve pas sympathique puis qu'elle se fait passer un peu dans le tordeur. Bien des gens m'écrivent pour me dire non, c'est parce qu'elle a juste pas de bon sens puis qu'elle est pas capable de travailler en équipe. Mais si c'était un homme, si c'était Martin au lieu de Martine, est-ce qu'elle aurait le même traitement? Vous qui avez été en politique, Lise, comment vous voyez ça?
Bon, alors donc, premièrement, il faut avoir la couenne dure, hein, pour faire de la politique, ça. Moi, j'avoue que mes années en politique ont été extraordinaires. Ceci étant dit, l'insulte ultime que je trouve qui est inadmissible, c'est qu'on m'appelle la Bourgo. Si ça avait été un nom, on n'aurait pas dit le Bourgo. C'est comme moi, ce qui m'insultait, par exemple, pour Mme Marois, la Marois, la Ouellette, on n'aurait pas dit le Marois ou le Ouellette. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pour moi, ça a constitué une insulte ultime pour moi de me frapper. Oh, moi, c'est bien, la Bourgo, Garlet, là. Ça, je n'aime pas ça et je trouve que je demande aux citoyens d'arrêter de faire ça, d'appeler les femmes en politique la ci, la ça. Et effectivement, il faut avoir la coindure, il faut être capable d'aller au-delà parce que c'est une tâche extraordinaire, vous savez, de représenter les gens. Que ce soit à l'Assemblée nationale, au fédéral ou...
Pensez-vous, Mme Bourgo, qu'on a été plus sévère envers Martine Ouellette parce que c'était une femme?
Bien, écoutez, des fois, je suis portée à penser que oui, parce qu'elle a tout un caractère. Martine Ouellette, on le voit bien. Tu sais, c'est comme Mme Marois, je veux dire, des fois, ça m'insultait, même si je ne suis pas...
Vous n'êtes pas de la même allégeance, on s'en souvient, oui.
Ben oui, mais quand même, Mme Maréchal, je trouve que Mme Marois était quand même une femme, tu sais, avec un grand standard et puis tout ça. Mais si les femmes, faut que les femmes fassent de la politique, c'est certain que ça prend... tu sais, moi, je suis un peu contre là, l'histoire des quotas, par exemple, là, parce qu'il faut vouloir faire de la politique, il faut accepter les conséquences, il faut accepter d'être ce qu'on est, de pas vouloir changer parce qu'on devient une femme en politique. Il faut rester soi-même, ceci étant dit. Tu sais. Mais l'insulte, là, de se rappeler là...
Ouais, ça me fait penser, Mme Bourgo, au fait que... On parle de la Bolduc actuellement.
Ben, je veux,
et la Bolduc, elle haïssait ça, se faire appeler la Bolduc. Ouais. Elle voulait qu'on l'appelle Madame Bolduc. Et ça veut dire que ça fait longtemps dans notre culture que des hommes, et peut-être même des femmes, pointent du doigt de la façon dont vous en parlez, des femmes en politique ou des vedettes ou des gens qui, pour les qualifier, quand les gens disaient la Bolduc, c'était pas toujours péjoratif, mais il y avait quelque chose pour elle qui était inacceptable, de la même façon que vous venez de le dire.
Mais dans le cas de la Bolduc, ce qui était inacceptable, c'est qu'on l'appelle par son propre nom à elle. On l'appelait par le nom de son mari.
Ben oui.
T'sais, on se rappelait ça avec l'équipe hier, sur les pierres tombales. C'était le nom du gars, mais c'était la femme qui était morte. C'était Madame Adélard Gnagnan.
Ah oui.
Voyons. La femme était inexistante. Elle devenait quelqu'un quand elle épousait un homme. Je veux dire, heureusement qu'on a avancé, là.
Et moi, je veux pas faire la chicane avec Mme Bourgo sur les quotas, parce que moi, je suis plutôt favorable au fait qu'à un moment donné, ça va nous prendre une loi pour passer à travers le plafond. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça prend de la couenne. Il faut avoir de la couenne dure pour faire de la politique, que tu sois un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que c'est un univers guerrier. C'est un univers d'affrontement, parce que c'est une lutte pour le pouvoir et pour le garder.
Mais il y en a beaucoup maintenant des secteurs qui sont comme ça. C'est pour ça que j'élargis à l'extérieur du sort de la politique, je veux dire, pour une avocate, pour une ingénieure, pour une enseignante, pour une vendeuse pendant l'industrie, pour une femme d'affaires. Il y a encore beaucoup le Boys Club. Moi, en tout cas, je suis convaincue de ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre, notre auditeur. Bonjour, Pierre.
Hey, salut. Moi, vous me faites rire avec ça, parce qu'à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui se fait attaquer ou dire de quoi, parce que c'est une femme, ou parce que c'est un homme.
Ouais.
Arrêtez. Il y a une femme en politique qui fait des moves de niaiseuse, ou un homme en politique qui fait des moves de niaiseux mérite de se le faire dire. Que ce soit, là, vous parlez tantôt de Mme Ouellette. Elle ne comprend pas le message que la porte est tout grande ouverte, tout capable, puis elle s'acharne. Fait que c'est sûr que le monde va s'acharner dessus, mais en même temps, c'est à cause que c'est une femme. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle fait plus d'affaires. Elle n'a plus d'affaires là, puis elle, tout ce qu'elle veut, c'est l'indépendance du Québec. Oublie le projet, madame, oublie le projet. Mm-hmm. Puis quand tu regardes ça, c'est vrai que c'est une job ingrate, j'en conçois. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme là, au Parti libéral, là, ils quittent tout le petit bateau parce qu'ils s'en allent et ils veulent avoir le petit prime de départ.
Ouais.
Au départ, comme ça, nous autres, là, quand moi je quitte ma job, ils ne m'en donnent pas une prime de départ.
Vous n'avez pas 150 000 piastres, vous, Pierre, non?
Alors que non, je ne l'ai pas, ma prime de départ, puis eux autres, ils s'en foutent. M. Couillard, ça fait des années, puis moi, c'est couille-couille son nom, là, parce qu'il nous a fait chier pendant je ne sais pas combien d'années. Et là, j'espère qu'il ne se fera même pas élire dans son propre comté, le monsieur. Ça serait une belle victoire pour tout le monde.
Sauf mais que non, là, vous avez lancé votre discussion sur une petite pointe là, que je voudrais relever. Vous avez dit, finalement, pour Martine Ouellet, ben, c'est fini l'indépendance. Si elle croit que c'est pas fini, comme moi, je crois que c'est pas fini, c'est un problème. C'est peut-être pas ça le problème. C'est peut-être que, finalement, il y en a dans notre société qui ont décrété, comme vous venez de le faire, que c'était fini, vous ne pouvez plus en parler, puis on passe à autre chose. Mais il y a bien du monde au Québec qui ne veulent pas passer à autre chose parce qu'ils pensent que ce n'est pas réglé. Alors, est-ce que c'est une hystérique parce qu'elle a des convictions? Peut-être que le problème de Martine Ouellet, ce n'est pas parce qu'elle tient à l'indépendance, c'est peut-être que sa façon de diriger ses troupes, puis sa façon de se positionner dans l'univers actuel médiatique et de l'action politique, là, elle pose des problèmes, puis elle rencontre des récifs, puis elle n'est pas capable de les contourner. Ce n'est pas parce qu'elle a des convictions. Autrement, on pourrait faire la même chose à l'inverse, dire à certains pourquoi vous vous entêtez dans telle direction.
Hein? On va aller à la pause. Il y a encore pas mal d'auditeurs qui veulent intervenir. 514-790-9850. Sans frais partout au Québec. 1-866-790-9850. Est-ce qu'on est plus dur envers les femmes en politique et ailleurs, dans d'autres sphères de la société, qu'envers les hommes? Ou au contraire, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement, on oublie un peu trop les hommes au Québec en commençant par les garçons à l'école? Est-ce qu'il y a effectivement un double standard ou deux sexes, donc deux mesures, deux poids, deux mesures? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y en a qui le disent, effectivement. À tout de suite, tout le monde. On se demande si un double standard hommes et femmes au Québec ont-ils le même traitement, que ce soit en politique comme dans d'autres sphères de la société. Robert, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. Moi, je crois que souvent, oui, il y a un double standard. Et je prendrai l'exemple de Mme Ouellet.
Oui.
On l'a beaucoup jugée, mais sans savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'on dit, oh, elle a un mauvais caractère, elle ne s'entend pas avec les autres, mais c'est quoi les faits? On n'a pas beaucoup parlé des faits, mais on a beaucoup parlé que faut absolument pas que ce soit elle. Alors qu'on est dans un processus démocratique, la femme a tout fait selon les normes du temps. Alors, je comprends pas qu'on ne lui laisse pas sa chance. À vous.
Merci Robert de votre opinion, merci beaucoup. Jean-Pierre, là-dessus,
ben,
peut-être, Élie?
On lui donne sa chance. Tantôt, je la défendais, puis là, je veux l'envers de la médaille, c'est qu'elle a sa chance. Est-ce qu'elle navigue bien dans cet univers-là, puis dans la tempête, et puis dans la difficulté, que pas juste le Bloc A, mais que le PQ A, c'est-à-dire, après le référendum de 95, il y a eu comme une descente longue et pénible et difficile à vivre. Alors que, par exemple, le mouvement indépendantiste est encore très fort en Écosse ou en Catalogne. Alors, au Québec, actuellement, il y a une baisse. Il faut dire que chez nous, contrairement aux deux autres endroits, on a eu deux référendums. Et ça a une conséquence. Est-ce que la difficulté de Martine Ouellet, c'est lié au fait que c'est Martine Ouellet ou c'est qu'un homme dans cette situation du Bloc québécois n'aurait pas connu les mêmes difficultés? Et est-ce qu'on l'aurait jugé aussi sévèrement? Moi, je suis d'accord avec Lise. Encore une fois, elle a commencé avec ça tantôt dans ton début. Je pense qu'un homme dans la même situation, aurait eu les mêmes genres de critiques. Regardons encore une fois les critiques que Jean-François Lisée reçoit. Bon, je veux bien qu'il fasse des erreurs, mais est-ce qu'il en fait à ce point ou si c'est parce que actuellement c'est de bon ton chez une partie de ceux qui font les opinions de taper ces indépendantistes? Ça, c'est une autre dynamique, là-dessus. Ça.
Mais ça serait valable que dans la sphère politique. Moi, je l'élargis.
Dans le cas de Jean-François Lisée, moi, je pense que c'est de bonne guerre à ce point-ci maintenant, là, près des élections. Puis ça a toujours été quelqu'un qui a été quand même un petit peu polarisant tout au long de sa carrière.
Oui. Hein? C'est vrai.
Mais comme
bien des femmes aussi. Hein?
Oui, absolument. Moi, le débalancement qu'il y aurait entre les hommes et les femmes au Québec, dans certaines choses, je pense que c'est absolument vrai. Mais je pense que c'est moins vrai. Tantôt, hors d'onde, je racontais que pendant très longtemps, il a existé au ministère de la Santé et des Services sociaux, même à l'époque où Philippe Couillard était ministre...
De la Santé.
Ouais. Un groupe qui s'appelait le groupe des 13. Et le groupe des 13, c'était des personnalités, des femmes féministes qui mettaient, des hauts fonctionnaires, qui mettaient un arrêt systématique à toute tentative d'établir des programmes d'aide pour les hommes en détresse.
C'est des hauts fonctionnaires?
Oui.
Ah ouais.
Oui.
Donc, des femmes qu'on ne connaît pas.
Non, non, on les connaît
qui,
pas.
Mais qui, finalement, tirent les ficelles du pouvoir.
Tirent les ficelles. Alors, ouais. On se retrouve au Québec où il y a à peu près 10 fois plus de points d'aide pour des femmes en difficulté que pour des hommes en difficulté. Mais là, on va dire, ouais, mais les gars ne demandent pas de l'aide. Ouais, mais si on
non, on va surtout dire, il y a 85 % des femmes qui sont violentées par
oui,
leur conjoint,
mais,
donc
mais
qui ont
si
besoin d'aide.
Mais s'il y avait des endroits où les hommes pouvaient aller pour ouais. être aidés, ben, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de violence.
On est-tu d'accord que ça prendrait les deux?
Ben c'est ça, exactement, mais présentement, c'est pas
le cas. Et c'est ça,
c'est
moi, que je combats l'opposition. C'est ça que je veux combattre. Je ne veux plus qu'on oppose les sexes.
Sauf que le problème, c'est ce que là, dit Lise est vrai. Moi, j'étais en politique, je le voyais. Même les groupes de femmes étaient contre le fait, par exemple, des centres d'aide, des centres d'hébergement, étaient
pour
contre.
Hommes? Ah ouais.
Non, étaient contre quand on pensait qu'on donnerait des subventions à des groupes
oui.
d'hommes. Il y avait une réaction négative, comme si le problème n'était pas là. Mais le problème est des deux côtés.
Et là aussi.
Les chicanes, voilà. là, c'est pas ouais. juste d'un bord, c'est des deux bords. Tu sais, le mythe que les femmes sont pas violentes puis sont pas agressives, ça, c'est un mythe. Mm-hmm. Ceci étant, le résultat, c'est qu'effectivement, en termes de conséquences physiques, bon, les femmes en subissent pas mal plus. Mais je suis d'accord avec Lise. C'est-à-dire que si on veut éviter, ben, il faut prendre la problématique des deux côtés des belligérants
tout
dans des
fait.
Conflits
ah oui?
familiaux et de couple. Et pas juste d'un côté. Mais ça, c'est vrai. Par ailleurs, quand on regarde les doubles standards ailleurs,
ouais.
on se rend compte qu'il y a des progrès qui se font significatifs parce que probablement qu'au Québec, quand on compare la plupart des autres sociétés sur la planète, c'est un des endroits où les femmes, je veux dire, progresse difficilement en politique, on le voit que c'est pas facile, mais elles progressent, elles ont le torque et puis elles font des pas importants. Ce qui est un peu étonnant, c'est que comment ça se fait qu'on a eu juste une femme premier ministre dans
ça n'a pas été long, s'entend?
Ça n'a pas été long, malheureusement, il n'a pas donné d'une certaine façon sa chance.
Avec bon. une soirée de victoire assez usurpée,
assez,
on s'entend.
Oui, exactement. Bon.
Oui, oui.
Quand même.
Alors,
disons que ça a été un succès raté.
Ça partait mal.
Ouais, ouais. C'est ça. Mais il y a des progrès qui se font, sauf que les progrès sont pas ne sont pas terminés, puis on ne doit pas arrêter la marche vers la parité dans le sens, pas juste des quotas,
oui, mais
dans le sens
courant,
d'un peu partout.
Le courant, le discours ambiant, je trouve, nuit à ce qu'on sait.
On peut pas passer à côté des statistiques qui sont sorties la semaine dernière sur la réussite scolaire.
Oui, mais...
Je veux dire, l'écart entre les garçons ouais. et les filles, c'est sidérant. C'est sidérant qu'on
mais
ait
c'est
cet écart-là.
Oui, rappelle-le,
alors,
l'écart.
Mon Dieu, ben il y a à peu près 20 points de différence.
C'est ça, bon. Ouais. Ben, en fait, c'est que 50 %, on dit que 50 % des garçons...
Un garçon sur deux.
Mais un garçon sur deux, mais
disais,
une fille
Lise,
sur trois aussi.
Hors micro, tantôt, ouais. c'était que... tu devrais le rappeler, ouais. pour le recrutement. On avait une expérience en Ontario qu'on n'a pas
oui,
voulu faire
oui,
au Québec.
Oui, c'est ça. En Ontario, où le il n'y a pas cet écart-là. Il y a un écart de quelques points, là, mm-hmm. moins de 10 points. Et il y a quand même une initiative pour embaucher plus d'hommes professeurs. Et il y a des gens au Québec qui sont allés voir comment ça se passe, puis ils sont venus ici, puis on dit, regarde, eux autres, ils font ça. Et non, il n'y en aura pas ici d'initiative, parce que c'est considéré comme discrimination positive envers les hommes. Politiquement, ça passe pas.
Mais je ne suis pas sûre que ce soit la... C'est pas ça non plus qui fait que l'écart est peut-être moins grand.
Non, mais ça montre la différence de mentalité où on n'est pas prêt à faire un pas un peu à l'extérieur des cadres normaux pour dire, on va aller chercher... plus d'hommes, on en a besoin, au nom d'une
ben alors, si
d'une
on fait
égalité...
ça dans des secteurs où il n'y a pas assez d'hommes, prenons le cas de l'éducation, il va falloir le faire dans les autres secteurs où il n'y a que des hommes et pas où les femmes ont encore de la difficulté à percer. Parce que là, on semble prendre pour acquis que maintenant, il y a des femmes partout puis c'est elles qui runnent le show, tel point qu'il y en a beaucoup qui disent on vit au Québec dans une société matriarcale. Hey, voulez-vous que je vous explique c'est quoi une société matriarcale? C'est pas le Québec, là. C'est pas parce que tu gères ta cuisine que c'est toi qui le boss, là.
C'est les germaines.
C'est pas ça, là. Alors, tu sais, c'est pas de dire on fait rien pour les garçons. Il y a aussi l'autre chose, savez-vous pourquoi? C'est peut-être parce que les filles, si elles réussissent un peu plus aujourd'hui dans un contexte scolaire, pensez-vous que les filles, moi, mes filles, ça étonne beaucoup de passer de 8 à 3 assises, les fesses assises sur une chaise. Elles n'aiment pas ça non plus. Nous autres non plus, on n'aime pas ça. Je veux dire, on est comme les gars, là. c'est pas le je veux dire, c'est pas le royaume de l'homme que de faire du sport, voyons donc.
Sauf que si on fait ce débat-là, par exemple, dans le milieu scolaire, est-ce qu'on peut le faire comme on le fait actuellement, ou s'il y a des dogmes qu'on va rencontrer où on ne pourra pas discuter et se poser la question, est-ce que avoir c'est plus ça. De profs masculins au primaire, peut-être même au secondaire.
Mais on va pas les attacher, les gars, s'ils veulent pas y aller.
Mais est-ce que ce débat-là peut se faire au Québec? Ouais. Est-ce que le double standard dont tu parles, est-ce qu'il n'est pas des deux côtés, dépendant des situations?
Ouais. On va à la pause. On parle de double standard homme-femme en politique et dans les autres sphères de la société. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment. Bon, sur la question de l'école et de l'absence un peu, enfin, d'un manque de présence masculine, je pense qu'il va falloir qu'on revienne là-dessus puis qu'on en discute plus longuement parce que là, il y a un véritable enjeu. Puis s'il faut prendre des mesures temporaires qui aideraient à augmenter une présence masculine, je pense qu'il faut sans doute regarder ça. Est-ce que ce serait des programmes de discrimination positive comme en Ontario? Je ne sais pas. Lise Ravary, mon invitée, Jean-Pierre Charbonneau également. Mais je veux vous dire, là, il y a une femme là, qui vient d'annoncer en ce moment même qu'elle va briguer un siège à Prévost, dans le comté de Prévost, dans les Laurentides. C'est Marguerite Blais, qu'on a bien connue comme ministre libérale. Marguerite qui vient souvent à l'émission parce qu'on est un peu ensemble dans la cause des aidants naturels. En ce qui concerne les personnes âgées, Marguerite Blais, je pense que c'est pour moi la personne qui en connaît le plus au Québec. Elle a instauré tellement de commissions, elle a fait des tournées, pour finalement se faire un peu jeter par son parti et son chef. Là, ça ressemblait un peu à ça. Donc, Marguerite Blais qui s'en retourne en politique contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis?
Ben, c'est une bonne prise pour le gouvernement.
Pour la CAQ?
Pour la CAQ, c'est évident. C'est une vedette. Et puis, elle n'a pas... comment je pourrais dire? Elle a bien fait quand elle était ministre responsable des aînés. Donc, elle a un bon crédit à son actif. Bon, reste que ça va être une belle lutte dans ce comté-là. On va falloir voir qui les libéraux vont mettre dans le comté. Bon, parce que maintenant, c'est des luttes à quatre, hein, surtout dans la grande région de Montréal. Mais c'est clair que, bon, c'est une belle prise pour la CAQ.
Ouais. Lise?
Ouais, peut-être que certains libéraux s'en mordent les doigts, puis si c'est le cas, ben c'est ça qu'ils doivent faire.
Mais tu sais, elle parlant de double standard.
Mais
voilà, c'est pour ça que je parlais cet exemple-là. Pourquoi? Parce que, bon, elle l'a jamais trop dit officiellement, ouvertement, mais elle l'a laissé sous-entendre. Oui. Elle n'était pas écoutée.
Ouais.
On se foutait bien de son. Est-ce que c'était parce que c'était le ministère des aînés, puis tout le monde s'en fout des vieux au Québec? Mais elle n'était pas écoutée du tout.
Elle était tassée.
C'était assez beaucoup par
Philippe
Couillard.
Quelqu'un qui a fait autant qu'elle, puis avec la réputation qu'elle a, moi, je n'ai jamais compris pourquoi.
Non.
Je veux dire, ça, c'est une inimitié entre les deux. Il y a du courant qui ne passe pas.
Ou le Boys Club.
Ou encore,
parce que c'était une ministre déléguée, si je me rappelle bien.
Oui.
Et puis, les ministres délégués ont des ministres seniors. Puis le ministre senior, dans l'occurrence, dans ce dossier-là,
c'était
Barrette. Et puis, M. Barrette, il y en
Rome
a
la place.
Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est une hypothèse. Mais c'est clair que il y a pas, si ça avait été une ministre responsable d'un ministère avec des services, tout ça, le problème justement de ce type
de ministre.
Les aînés,
tu mets le doigt sur autre chose. Les aînés, c'est un dossier délégué.
C'est un dossier délégué, comme les jeunes.
Comme les jeunes.
Comme la famille, comme la condition féminine, ce sont des
ministres. Mais c'est toutes des choses qui touchent les gens directement. C'est toutes des affaires qu'on délègue parce qu'on pense que ce n'est pas important.
Ah, mais les routes aussi. La santé aussi.
Les ministres délégués, les ministères délégués sont des ministères de clientèle. Et on en nomme parce qu'on veut s'attirer la faveur de ces clientèles-là. Sauf qu'une fois que les gens sont en fonction, on leur donne pas les moyens de se déployer puis de déployer les politiques qu'ils proposent. Dans le cas de Mme Blais, de Marguerite Blais, elle avait proposé une politique assez audacieuse.
Puis ça a
bloqué
au
trésor. Le gouvernement n'a pas suivi.
Ça a bloqué au trésor.
C'est ça. Tu sais, les gens, autrement dit, finalement, ont retraité plutôt que de donner un go puis dire on y va dans cette direction-là. Les services à domicile, ça fait combien d'années qu'on en parle? Là, puis que, tu sais, ça prend du temps.
Et que c'est long, ça.
Et les aidants naturels, ça a pris du temps puis ça prend encore du temps.
C'est ça.
Alors,
mais, en tout cas, pour la CAQ, effectivement, très, 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 très belle prise. Et puis, c'est clair que Mme Blais veut encore contribuer quelque chose puis que... Ben, de la mettre sur un banc arrière éloigné, c'était peut-être pas la chose à faire. Monsieur Couillard.
On a, ben, mais merci, merci à tous les deux. Merci bien.
Merci
franchement, je ne voudrais pas réagir sur ce qui se passe avec la presse. Il y a eu ce matin une annonce qu'on essaye de comprendre. Je ne sais pas si les gens ont... Bon, je peux vous le dire. Là. Ce qu'on semble apprendre, c'est que l'entreprise, la presse, va se transformer en organisation à but non lucratif, ce qu'on appelle une OBNL ou une OSBL. Et qu'on a promis aux employés qu'il n'y aurait pas de mise à pied. Donc, vous allez entendre notre bulletin de nouvelles dans quelques minutes. Vous en saurez sans doute un peu plus là-dessus. On dit également que le propriétaire actuel, qui est Power Corporation, va investir encore plusieurs millions, une cinquantaine de millions dans l'aventure, mais ne sera pas engagé dans le journal à terme.
La alors, grosse question, c'est est-ce qu'on va revoir la presse papier?
Ben, il y en a qui disent ça comme rumeur, tu sais, les rumeurs. Ben, moi, je n'haïrais pas ça.
Moi non plus. J'aimais mieux la presse papier.
Bon. Hey, merci beaucoup, Jean-Pierre Charbonneau. Merci beaucoup, Lise Ravary. Je te ferai pas réagir vu que tu travailles au Journal de Montréal.
Ah, j'allais dire, moi, j'aime bien. J'adore la presse pas de papier. C'est parfait.
Après les nouvelles, on se retrouve.